Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Nous recevons aujourd'hui l'association Terre de Molliet-Sema, représentée par Dominique Fessard, administrateur, membre du comité de pilotage de la conférence climat, et Danielle Combourieux, la présidente. Bonjour à vous deux, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, merci.
Oh, très bien, on est content de vous recevoir dans le studio. On va parler de climat, de plein de choses qui fâchent un peu, mais dont il faut s'occuper quand même. Voilà, c'est normal. On va passer une heure ensemble pour découvrir votre association et son actualité. Mais on va écouter tout d'abord le flash info national et international que la rédaction nous a concocté. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour avec Dominique et Daniel. En préambule, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de votre association, depuis quand elle existe et pourquoi est-ce que vous l'avez créée, son historique.
Eh bien, l'association Terre de Molliet a 5 ans d'existence bientôt, puisque c'était juin 2020. Et en fait, elle est née d'un constat. D'abord, on a découvert les problématiques. Moi, je ne suis pas molliétsoise d'origine, mais on venait depuis 40 ans. Et puis, comme on s'est installé définitivement, on a commencé à regarder la façon de vivre, les problèmes locaux, intéressés par la vie de la commune. Et on s'est aperçu qu'il y avait certains sujets qui méritaient peut-être d'être approfondis. On aimerait travailler souvent avec nos élus locaux. Et donc, un petit groupe, on était au début très peu, une petite dizaine, on a créé cette association, Molliet, Terre de Molliet et Maha. Alors, Terre de Molliet-Sema, Terre de Zem, et qui a comme objet social de se pencher sur 3 grosses problématiques qui sont l'urbanisme, le patrimoine et l'environnement. Mmh. En fait, on n'a rien inventé parce que ce sont les 3 gros thèmes qui sont développés dans le plan local d'urbanisme, dans le schéma de cohérence territoriale. Mmh. Voilà des textes que j'ai lus et relus parce que c'est la base de tout, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, ça fait 5 ans. On a commencé. Là, actuellement, on est à peu près à 90 adhérents.
Oui, c'est pas
donc,
mal.
Donc, c'est pas mal. Voilà. Mmh. Et on est un conseil d'administration qui est constitué pour l'instant de 5 personnes, avec classique. Hein, c'est une association loi 1901. Mmh. Président, secrétaire, trésorier et administrateur.
Alors, au niveau des adhérents, les gens, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un profil un petit peu? C'est plutôt des gens propriétaires qui sont là, qui sont un peu inquiets de savoir comment, comment ça va se profiler, les changements, le littoral et tout ça. C'est quoi un petit peu?
Alors oui, en fait, bien qu'on n'aime pas dire propriétaire, parce que justement, ça donne l'impression qu'on est intéressé par notre résidence, la façon dont on va agir, que notre voisin ne nous embête pas. Alors, ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est qu'effectivement, ce sont des gens, quand on voit qui peut intégrer l'association, ça peut être des personnes morales, ça peut être des propriétaires, des locataires. Mmh. En fait, surtout des gens qui habitent ou s'investissent sur cette commune Molliet-Sema. Mmh. Mais je ne vous cache pas que le primum movens, c'était effectivement de voir, on est une commune littorale, et de voir se développer comme ça l'urbanisation à tout craint. Surtout sur Molliet-Sema, c'est spectaculaire. On s'est dit, mais ce n'est pas possible, est-ce qu'il y a moyen d'intervenir ou de demander ou de concerter pour qu'on n'arrive pas, et là c'est notre cas, à plus de 82% de résidences secondaires sur une commune littorale, hein, en face de 1600 habitants à peu près, à l'année, à 45-50 000. Donc c'est embêtant, voilà.
Monsieur Pierre Frosté, le président de la comité d'agglomération et de maire de Vieux-Beaucaux, il était à votre micro vendredi, on a parlé de ça. Effectivement, la balance est plutôt positive en démographie les Landes, il y a pas mal de gens, et en fait, la tendance serait peut-être à essayer de un petit peu lever le pied, freiner un petit peu ça avant qu'on se retrouve un petit peu en difficulté pour conserver notre qualité de vie.
Le problème, si vous voulez, les Basques, les gens du Pays Basque combattent ça plus ardemment que chez nous, hélas, c'est qu'on se retrouve avec une spéculation immobilière pour loger les estivants. Et si bien qu'on a des logements qui sont de plus en plus attribués à ça. Mmh. Et que du coup, les locaux ne peuvent pas se loger. Les familles, ils sont obligés d'aller plus à l'intérieur parce que les prix flambent. Mmh. Mais c'est bien un petit peu le débat qu'on aimerait avoir et qu'on a quand même avec nos élus. C'est que le permis de construire, le dernier mot reste au maire.
Oui.
Sur un permis de construire, il y a possibilité de voir si on veut une résidence secondaire ou une résidence principale. Mmh. Si on écoute les informations, on voit bien qu'à Chamonix, par exemple, le maire de Chamonix a décidé de ne plus attribuer de permis de construire aux résidences secondaires. Mmh. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de résidence secondaire, mais nous, on a la palme d'or avec nos 82%.
C'est énorme.
Et c'est énorme. C'est énorme. Et si bien que les prix sont énormes et on continue à construire en disant « mais si, ça permettra de loger la population
oui. ».
Or, en fait, on le sait bien que ce n'est pas le cas. Mmh. Donc, bon, on ne va pas entamer un débat sur l'urbanisation, mais voilà, oui, ça, c'est un de nos chevals de bataille. Et ce n'est pas toujours simple. On est même des fois diabolisé parce qu'on dit que Terre de Molière Sema empêche les gens de se loger. Et en fait, ce qu'il faut savoir juste, je terminerai peut-être sur l'urbanisme là-dessus, c'est qu'on ne peut pas avoir d'action contre les permis de construire s'il n'y a pas un intérêt à agir, c'est-à-dire s'il n'y a pas un problème en termes de légalité sur les permis de construire. Mmh. Donc l'idée, c'est surtout que ce soit construit en toute légalité.
D'accord.
Donc les actions qu'on mène, c'est dans ce contexte légal et pas pour empêcher les gens
bien sûr.
De construire.
Faire respecter la loi, il n'y a rien de mal à ça a priori.
Voilà.
Il me semble. c'est une occasion aussi de vous demander un petit peu, à vous deux, votre parcours personnel. Alors moi, j'ai l'impression, en vous entendre, Daniel, vous avez fait un petit peu de droit peut-être, je ne sais pas, parce que vous avez l'air d'avoir des compétences en la matière. Non, je ne sais pas.
Alors, pas du tout.
Alors, racontez-nous ça.
Non, pas du tout. Moi, je suis médecin.
Ah oui.
Et on a habité, j'ai fait mes études dans l'armée, l'école du service santé des armées, mm-hmm. que j'ai quittée. Et ensuite, j'ai vécu un petit peu outre-mer et je me suis spécialisée, si je puis dire, en médecine fœtale, en échographie fœtale. Mm-hmm. Et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à Lyon, dans un centre de référence, un mm-hmm. gros hôpital. Mais par contre, j'ai été amenée à écrire des recommandations professionnelles, à travailler, à faire des études scientifiques avec des gens qui menaient ces études. Et du coup, j'ai un côté très obsessionnel. Mmh. Il paraît que ça se soigne, hein, mais je ne sais pas.
Peut-être.
Et donc, quand je me suis penchée sur la vie de Molière, puisque je suis à la retraite maintenant, j'ai commencé à lire les textes, justement. Et je me suis dit, mais on a des textes qui sont fabuleux. Maintenant, l'application...
Mmh. Oui, c'est autre chose.
C'est autre chose. Ouais. Et je comprends la difficulté de nos élus parce que sur des petites communes, il n'y a pas de services spécialisés comme dans une grande ville.
Oui.
Donc, je ne dis pas que c'est facile, hein, ce n'est pas ça. J'aimerais pouvoir que nous puissions travailler avec eux.
Très bien. Merci, bon, c'est intéressant. Et Dominique, peut-être quelque chose à dire ?
Je peux me présenter très rapidement. Moi, j'ai une formation scientifique au départ. J'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique.
Mm-hmm.
Là, j'ai arrêté de travailler. J'ai la chance d'être
chimiste,
à la retraite. J'ai été bioinformaticien.
D'accord.
Informaticien.
Okay.
Et puis là, j'ai la chance d'être à la retraite. Donc, je ne travaille plus. Et après avoir été à Paris, à Lyon, à Montpellier, on a décidé de se rapprocher des Landes parce que ma femme est originaire de Molliette.
Mm-hmm.
Elle rêvait de vivre dans les pins.
Ben voilà.
Donc nous y voilà. Mmh. Nous vivons dans les pins.
D'accord. Et donc maintenant, vous avez décidé de rejoindre ce combat, hein, cette veille un peu que vous menez pour
absolument.
Que les choses restent un petit peu de qualité, quoi. Très bien, mais c'est intéressant. Parmi vos objectifs, hein, je regarde un petit peu là, promouvoir l'introduction de politique et la protection de l'environnement. Hein, donc là, c'est vraiment votre cœur de métier, on va dire. Et là, c'est le respect de la législation, comme on vous dit, ça c'est quelque chose d'important en fait.
Ben, là, on a surtout parlé d'urbanisme. En fait, comme je vous disais, on est très, très interpellés justement par les problèmes environnementaux qui touchent le monde entier, bien sûr, et bien sûr propres à notre région. On est aussi interpellés par ce patrimoine qu'on voudrait sauvegarder, bien que n'étant pas native de la région, qui est très particulier, qui fait le charme de cette région.
Mmh.
Et c'est vrai que en ce qui concerne l'environnement, on avait fait il y a 2 ans une un événement sur la forêt, parce que moi, y compris, on ne savait pas très bien comment s'exploiter ces grandes forêts. Les gens venant de la ville, parce qu'il faut voir que sur Moliètes, il y avait à peu près 300-400 habitants locaux, si je puis employer ce terme, et qu'en fait, maintenant, il y a les deux tiers des gens qui, comme moi, ne sont pas issus de la région.
Ah oui, oui.
Et donc, quand ils voient tomber un arbre, ils confondent un pin avec un chêne qu'on abat.
Oh, alors, si on confond un chêne dans les Landes, ça va aller mal.
Non, ce que je veux dire, ce n'est pas tant dans les espèce oui, elle-même, mais dans le traitement des arbres. Et en fait, et ici, on a fait cette conférence pour bien expliquer, c'était un état des lieux, à quoi correspondait l'exploitation des arbres ici, et qu'il ne fallait pas hurler dès qu'il y avait un pin qui tombait par terre ou qu'on abattait.
Oui, oui. Ça, c'était ça l'idée. C'est l'exploitation, c'est vrai.
C'est l'exploitation des naturelles. Donc, cette conférence avait permis ça. Donc voilà, c'est l'environnement, mais l'environnement sur notre région, surtout qu'à Moliètes, on a la chance d'avoir une réserve nationale. Une réserve nationale naturelle qui est la réserve du Courant Duché. Donc, on est très proche de la protection.
Qui est remarquable.
Absolument.
Voilà. Bah, c'est le moment de déjà faire notre première pause. Hein. On fait une petite pause musicale et on continue notre conversation tout de suite après. On sait qu'on parlait effectivement du climat. C'est important. Alors, vous êtes ici pas par hasard aussi. Hein. On aura d'autres questions plus générales à traiter, mais c'est parce que vous organisez justement une conférence qui est prévue le 12 avril 2025 qui s'intitule, je crois, « Comment vivre ici avec le climat de demain ». C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question.
On vous la pose.
Eh bien, oui, justement, on peut s'en inquiéter des fois. C'est assez riche. Hein. Il y a des intervenants quantitativement et qualitativement importants. Voilà, donc on va parler un petit peu de ça, si vous voulez bien.
Oui, alors moi je vais juste introduire le sujet, je vais laisser Dominique qui fait partie du comité de pilotage de l'organisation de cette conférence en parler. C'est qu'en fait, merci de nous recevoir parce que souvent on confond les actions des associations avec du militantisme et c'est pas du tout notre but. Ici c'est un problème, comme on a un autre cheval de bataille, c'est l'environnement. On avait réfléchi, on avait fait la forêt, à quel sujet aborder, et le climat, et on voulait sortir un petit peu de ce côté angoissant qui est le réchauffement climatique, et savoir s'il y avait des solutions, et surtout exposer les problématiques qui sont propres à notre région. Dominique vous en parlera, et on a dû faire un tri, parce que bien sûr, l'idée pour tenir quelques heures sur une conférence comme celle-là, c'était difficile. Donc je te passe la parole, Dominique. Okay.
Alors je vais présenter la conférence.
Eh ben voilà,
pratiquement, c'est une conférence qui va avoir lieu le 12 avril, qui va se tenir dans le centre de séminaire de Moliètes, Emma, et qui va démarrer à 12h. De 12 à 14, on va avoir une exposition en introduction tournant autour du ressenti des enfants autour de ces phénomènes.
Ça, c'est intéressant.
Donc ça nous tenait à cœur parce qu'en fait... nous, on a dit, on est à la retraite.
Oui, on se bat pour eux, en fait.
On se bat pour eux, finalement. Et puis, il faut leur apprendre à se battre pour eux et pour leurs futurs enfants aussi. Donc, cette conférence, cette exposition, elle a été faite en collaboration avec deux collèges et une école élémentaire, avec un collège à La Benne, un collège à Cap-Breton et une école élémentaire à Messanges, dont Danielle reparlera peut-être parce qu'elle a travaillé avec les enfants et l'institutrice qui a été responsable de ça. Donc ça va effectivement donner une idée de la manière dont les enfants perçoivent ces phénomènes de dérèglement climatique et perçoivent la manière dont ils pourraient subir la situation dans le futur. Donc ça va être très très bien. Et puis après, on attaque une conférence qui va durer 4 heures. Donc c'est une conférence un petit peu marathon. Il y a beaucoup de sujets. On en a criblé énormément. Il y avait plein d'autres choses à dire. Et puis on va essayer de tenir, bien entendu, les délais avec un animateur efficace qui va nous permettre de le faire. Donc l'idée, c'est de faire un point factuel et global sur ce que c'est que le dérèglement climatique. Et là, on va faire appel à un généraliste, un gars du CNRS, qui est membre du GIEC, qui est un organisme qui travaille sur...
Une référence, quoi, quand même.
Une référence, et qui va nous faire un topo sur un état des lieux, et surtout sur les tendances du dérèglement climatique, en termes de réchauffement, en termes de montée des eaux, etc.
D'accord.
Et puis, dans le cadre de ces, de cette présentation générale, on a la chance d'avoir un intervenant intéressant qui est le directeur de l'environnement de la MACS, qui va nous faire un topo sur les mesures pratiques qui sont prises par la communauté de communes pour atténuer et adapter notre territoire au dérèglement climatique.
Oui, d'ailleurs, M. Froustet, il faisait partie d'un comité qui était à Paris sur le trait de côte. Hein,
ouais.
qui,
donc alors, c'est... M. Froustet, on l'a rencontré et il est très gentiment. Oui. Il nous a permis, effectivement, il nous a mis en contact avec ce monsieur qui va intervenir et nous faire un topo sur ce sujet. Oui. Et puis après, on abordera dans le thème général un sujet important, c'est l'urbanisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait au niveau urbanisme? On parle de retrait de côte, on parle de sur-urbanisation liée au tourisme. On parle
des imperméabilisations des sols. Voilà, parce qu'on se retrouve quand même dans certaines villes à devoir enlever ce qu'on avait mis. On se dit, ah mince, c'était pas terrible en fait d'avoir mis du béton ou
tout
du goudron à cet endroit-là.
Tout à fait. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est si on le mettait plus, ça serait peut-être une meilleure idée que de le mettre et de le défaire dans 10 ou 15 ans.
Oui, même financièrement parlant, c'est plus intelligent peut-être aussi.
Voilà. Et puis ensuite, on enchaînera sur plusieurs exemples concrets qui touchent vraiment notre territoire, des Landes et de la Nouvelle-Aquitaine, mais des Landes plus particulièrement, qui sont les incendies. Comment on se préserve des incendies avec, effectivement, ces phénomènes de montée des températures et de sécheresse.
Oui, tout à fait.
Donc là, on va avoir une intervention faite par le directeur de la DFCI Landes, donc un organisme qui effectivement travaille sur la préservation des forêts et son exploitation. Ensuite, on parlera de zones d'érosion littorale, c'est-à-dire notre littoral s'érode, la mer monte, les tempêtes abîment le littoral, et les habitats qui sont à proximité de ces traits de côte sont à risque aujourd'hui. Que faire? Est-ce qu'il faut les transférer à l'intérieur des terres? Est-ce qu'il faut les consolider? Donc on parlera de ça. Avec des spécialistes également. Un gars qui fait partie d'un organisme qui s'appelle le GIP Littoral, qui travaille sur l'ensemble de l'Aquitaine, à étudier l'érosion des côtes. Et puis une représentante de la mairie de Vieux-Boucau, qui travaille sur ce sujet particulier.
C'est vrai qu'il y a des villes comme Biarritz, etc., là où il y a des corniches, tout ça, il y a des problèmes
Dans le Pays Basque, c'est très net, parce que c'est des corniches, et quand les maisons tombent, elles tombent de 50 mètres ou de 60 mètres. Nous, elles sont envahies par le sable, et puis ensuite, elles disparaissent.
C'est moins spectaculaire.
Ah, c'est le phénomène des blocos.
On les connaît tous.
Les blocos, on connaît tous, donc c'est un petit peu le...
Je sais pas, quand j'étais gamin, il y a très longtemps, au siècle dernier, ils étaient certainement pas à la même position, ni à la même profondeur que maintenant, à mon avis.
Et puis ensuite, on parlera d'inondation par remontée de nappe, avec également des spécialistes du sujet. Un hydrogéologue du Conseil général des Landes qui vient nous faire un topo sur ça. C'est important parce que les nappes affleurent dans le sous-sol landais et parfois peuvent remonter pour différents phénomènes, par différents phénomènes physicaux, hydrolo-climato, ce que vous voulez. Donc en fait, c'est un problème. C'est un problème qui est lié aux inondations. C'est un problème qui est lié à la qualité de l'eau qu'on distribue chez les particuliers. Et puis on finira sur une note très optimiste, à savoir la contribution des citoyens à l'effort d'adaptation. Et on verra avec le maire de Molietz, qui a monté dans sa commune ce qu'on appelle une réserve communale de sécurité civile, l'intérêt de l'engagement des citoyens pour permettre une adaptation en cas de phénomène particulier lié au réchauffement climatique.
On va dire ça. C'était inexorable. Après, bon, ce problème, il y a des pays qui l'ont réglé de manière très simple. Je ne citerai pas le pays en ce moment dont on parle beaucoup. Ils ont juste décidé que ça n'existait pas, qu'on n'en parlait pas.
Ah, ouais, c'est une manière de voir les choses.
C'est pas mal,
manière,
ça.
C'est une manière de voir les choses.
C'est quand on met le tas de poussière sous le tapis, il paraît que c'est propre après. Bon, voilà.
Oui, c'est terrible.
Oui.
Et vraiment, on terminera aussi, on repartira ensuite sur l'exposition. Je refais, si j'ai le temps, un petit speech là-dessus. C'est qu'il faut savoir que ce qui est troublant, le travail qui a été fait par les collèges était un travail qui était mené par leurs professeurs. On exposera d'ailleurs comment ils ont organisé ces différents projets et les affiches qu'ils en ont tirées. Et qu'on a proposé aux enfants de CM1 et CM2 à l'école de Messanges, Madame Myriam Lartigol, la directrice de l'établissement et la maîtresse de cette classe-là. Et ça fait partie du programme pédagogique, toutes ces problématiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé en demandant qu'ils travaillent là-dessus. On est arrivé en leur disant, est-ce que ça vous intéresse qu'on expose un travail des élèves, puisque vous le faites là-dessus. Et donc, ils ont vu ces posters et ils ont réagi par rapport à ça. Et c'est très troublant parce que on a l'impression que leurs réflexions sont menées par les adultes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, pas du tout. Ils sont, c'est des éponges. Moi, ce que j'ai vu, et je vous invite, je ne vais rien dévoiler pour que vous veniez voir.
Pas de spoiler.
Non, c'est que les slogans qui sont, ressortent de là, même chez les petits, puisque moi, c'est, enfin, les petits CM1, CM2, donc, c'est troublant. Parce qu'ils parlent même de la guerre, vous voyez, du rapport à la guerre, je ne dis rien de plus. Et ils ont des mots qui sont troublants et surtout qui nous montrent vraiment du doigt, tout en ayant de l'espoir. Très, très intéressant. Voilà, très venez, bien. Venez.
On va développer ce sujet, en reparler, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est le moment de notre nouvelle pause. On se retrouve après, on va écouter le Flash Info local et un petit peu de musique. Et on se retrouve dans un petit moment tout de suite. Et il y a encore des choses à dire, je crois, sur le contenu. Et puis voilà, je voyais les intervenants, il y en a quand même beaucoup. Et puis aussi des gens qui ont, comment dire, des positions importantes ou intéressantes, en tout cas. Ça a dû être... Un travail, quel travail ça représente d'organiser ça et d'inviter tout ce monde pour une conférence?
C'est un travail énorme.
Ouais.
je pensais pas que ça allait être aussi gros, pour être très franc. Et je tiens à remercier quelqu'un qui s'appelle Thierry Moreau, qui est aussi membre du comité de pilotage et qui a fait un boulot monstrueux et largement supérieur au mien d'ailleurs sur le sujet. C'est dommage qu'il soit pas là, mais il est malade.
Voilà, ça arrive.
Ça arrive. Donc c'est compliqué à organiser, c'est compliqué à retenir les sujets sur lesquels on va travailler. On était trois là, dans le comité de pilotage, on n'avait pas forcément les mêmes idées sur les sujets à retenir. Il y avait du pragmatisme à maintenir parce qu'on a 4 heures, on n'a pas, 16 heures faire le truc. Donc il faut le tenir avec des moments de respiration parce que sinon les gens ils vont être assommés au bout de 4 heures.
Oui, je sais bien, il faut faire des coupures pub.
Il faut faire voilà.
Je rigole.
Et puis il faut intéresser les gens. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir dans nos carnets un certain nombre de gens, de scientifiques et de gens experts des domaines qui ont accepté de venir. Et merci à eux, c'est vraiment fantastique. Donc maintenant, comme c'est des gens très occupés, on se bat encore pour récupérer un certain nombre de présentations, revoir les présentations, les mettre dans le contexte de telle manière que tout ça se tienne. Donc c'est un gros boulot, mais un grand merci à tous ceux qui sont portés volontaires et bénévoles pour venir faire ces présentations. Et en espérant qu'in fine, ça donnera l'envie au public d'adhérer à une démarche peut-être plus proactive que celle qu'ils avaient jusqu'à présent.
C'est-à-dire,
pas moins subir que réagir pour s'engager dans des actions qui, à petit niveau, peuvent être néanmoins intéressantes, en particulier pour l'adaptation. Il y a deux articulations dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a les opérations d'atténuation qui consistent à prendre à la source les causes et puis essayer de les atténuer pour en réduire les effets. Ça, c'est compliqué, c'est pas de notre ressort.
Et puis l'inertie.
Et puis il y a l'adaptation.
Ouais.
Et là, on peut tous s'adapter au truc.
Ouais.
On isole notre maison l'hiver, on isole notre maison l'été, sans clim, on fait des choses.
Oui, bien sûr.
Donc cette adaptation, on peut tous y participer. Et puis ce qu'on veut, c'est donner aussi l'opportunité aux gens qui vont venir d'aller plus loin dans leurs réflexions et dans leurs actions. Et puis ouvrir vers éventuellement un événement suite, si celui-là est couronné de succès, qui nous permettra de traiter des thématiques qu'on n'aura pas traitées durant cette première conférence.
D'accord.
Il y a une chose extrêmement importante à dire aussi concernant la fin de la conférence, c'est qu'il y aura un pot.
Ah voilà.
Ça
devient intéressant
parce que ça va attirer du monde. Hein, ça va attirer du monde.
Ouais, bien sûr.
Donc on aura un pot autour de l'exposition en fin de journée.
D'accord. Et aussi, il faut préciser que c'est gratuit.
C'est gratuit, oui.
Voilà, c'est bon. Et c'est sur réservation ou comment vous fonctionnez par rapport à ça?
En fait, comme le centre de séminaire qui est la salle de Molietz qui nous a été donné à disposition, merci aussi à Madame Aline Marchand. Cette salle comprend jusqu'à 300 personnes maximum. Donc c'est pour ça qu'on demande des préinscriptions. on en a déjà pas loin de 80.
87.
80, voilà.
À bon, ce jour.
À ce jour, sans faire d'énormes publicités, si ce n'est des mailings. Donc, c'est pour ça qu'on préconise la préinscription grâce à un petit... Tu nous expliques,
un
Dominique.
QR code.
Il y a un petit QR code.
Ouais. Voilà.
On tâchera de mettre dans le podcast sur notre site internet. Voilà.
C'est un petit QR code qui apparaît sur les affiches qu'on a mises droite à gauche et qui apparaît aussi sur des flyers qu'on a distribués dans un certain nombre d'endroits.
Oui.
Et le QR code apparaît, il est accessible aussi via notre site internet dont je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure.
D'accord.
Et sinon, on peut s'inscrire aussi sur le site même de Terre 2M. Alors, ça s'écrit Terre, T-E-E, 2R, E comme Terre, 2, le chiffre 2, M. .fr et il faut savoir que ce site ne bouge pas beaucoup parce que nous sommes tous bénévoles dans l'association et que nous n'avons pas de personnes qui s'occupent vraiment de ce site. Toutefois, dans l'image, dans la page d'accueil, vous avez un endroit où vous verrez, vous cliquez, vous pouvez vous inscrire là. De même que vous pouvez vous inscrire directement, on a une adresse
par email.
Info par email, voilà, info. info arrobase
terre2m
terre2m.fr. Tout ça, c'est sur l'affiche et sur le flyer. Donc, voilà.
En tant qu'association, là, est-ce que vous êtes, bon, du coup, actuellement en recherche aussi d'autres adhérents? Si vous aviez un adhérent qui pouvait faire committee manager, ça serait pas mal, du coup, parce que c'est problématique, je le ressens dans plein d'associations qui viennent, des fois... Effectivement, parce que c'est un travail important, c'est devenu un travail inévitable dans tout ce qu'on fait, c'est la com. Hein.
Et d'ailleurs, on a aussi une page Facebook.
Très bien.
Terre 2M.
Voilà, très bien. Bon, ça sera aussi dans le podcast. Vous serez tagué quand on le mettra dans les réseaux sociaux.
Merci. Il faut savoir aussi qu'une conférence comme celle-là, le sujet s'est dégagé. On avait fait une conférence il y a 2 ans donc, sur la forêt. Dont la suite a été une action très concrète qui est d'aider et de collecter les bouchons de liège au bénéfice d'une association qui s'appelle les Enfants de la Lune.
Ah oui.
C'est-à-dire que nous, on ne touche pas d'argent, mais on travaille bénévolement pour que ces bouchons soient livrés à... Tu sais mieux que moi.
Au liège gascon.
Au liège gascon, voilà. Et c'est la revente, si je puis dire, de ces bouchons qui génère donc un bénéfice qui est reversé à cette association.
D'accord.
Et nous avions monté ça après la conférence sur la forêt. Alors je me dis que peut-être la conférence sur le climat va générer d'autres actions et d'autres idées. Je l'espère. Donc il faut bien 1 an pour arriver à faire tout ce travail. Et merci encore à tous les intervenants qui sont bénévoles. Voilà, c'est beau de voir qu'on arrive à un certain niveau de conférences avec des gens qui donnent de leur temps.
Oui, mais il y en a beaucoup par ici en fait, puisque effectivement, comme je reçois beaucoup d'associations, il y a beaucoup de gens. Donc c'est vrai qu'une grande majorité est retraitée parce qu'ils se trouvent qu'ils ont en général plus de temps, sauf quand ils ont des petits enfants apparemment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se consacrent à plein de choses comme ça, et c'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui passent de leur temps, qui s'investissent dans des choses, ils se contentent pas de regarder le train passer. C'est voilà. Et ça va être le moment de notre dernière pause. Je vous avais prévenu, ça va vite.
Ah voilà. Oui.
Ça va très vite. Et voilà, on se retrouve après cette petite pause et pour la conclusion de cette émission. À tout de suite.
Merci.
Nous voilà de retour avec Dominique et Daniel pour la dernière partie très courte de notre émission. Donc, petit rappel, il se passe quelque chose le 12 avril. Rappelez-nous ce que c'est.
Donc le 12 avril, une conférence sur le climat. Comment vivre ici avec le climat de demain. De midi où commence l'exposition à 14h, c'est donc l'exposition, 14h, 18h, 18h, 19h, on va dire, la conférence, inscription gratuite, merci de vous préinscrire, pardon, les places sont limitées et donc c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire soit en flashant le petit carré, là, je ne sais jamais comment ça s'appelle.
QR code.
Je ne suis pas du tout à la page.
On dit code barre, l'ancienne, allez. Ça passera.
Soit par mail info@terre2m.fr, soit alors sur le site terre2m.fr.
Très bien. Et on en profite pour saluer les enfants qui ont participé à ça.
Hein, ah,
donc,
oui.
Parce que, en fait, les pauvres enfants, c'est eux l'avenir. Et en plus, ils doivent subir le côté anxiogène de leurs parents. Et donc, c'est pas facile la vie pour eux, je pense. Voilà. Et donc, s'ils nous entendent ou s'ils écoutent le podcast, on les salue parce qu'on compte sur eux.
Tout à fait. Donc l'école de Messanges, l'école primaire, le collège de La Benne, ainsi que de Cap-Breton. Merci aux enseignants également d'avoir mené ce travail.
Tout à fait. Ben, c'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ça. Et c'est un sujet important qui nous concerne, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et donc j'espère que les gens seront nombreux à venir à votre conférence.
Oui. Nous aussi.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Merci. Au revoir.